pour ça.
Bonsoir, bonsoir à tous, et on est là pour ça encore en ce mercredi de vacances. Et ce soir, nous sommes avec Cécile, bonsoir.
Bonsoir.
Avec, je ne me rappelle plus ton prénom.
Nicolas.
Nicolas, bonsoir. Donc Cécile de la Fanzinothèque et Nicolas de Nyctalope Mélodie. Et nos invités québécois donc de, qui ont participé, qui ont fait l'expo Fanzine Glacée actuellement à la Fanzinothèque.
Fanzine
Givrée, pardon. Wow. Avec donc Mimi Trayette.
Bonsoir.
Et ensuite j'ai oublié les noms, pardon. Alice Young.
Alice Jarry.
Jarry, pardon. Jason Santoro et
Cantoro.
Louis. Oh là là, je suis désolé. Alors je recommence. Alice Jarry, Jason Santoro, Cantoro et Louis Rastelli, donc de
nom de famille.
Voilà.
De Montréal.
De Montréal, ouais. Comme on l'entend. Donc l'expo a lieu du 13 avril au 12 mai sur la mezzanine du confort moderne. C'est, l'expo est composée majoritairement donc, de sérigraphies de l'atelier 514, constituée donc d'Alice et de Jason.
Jason, ouais.
Jason, on dit Jason ou on dit Jason?
Vous pouvez dire ce que ça vous tente.
D'accord.
Je vais vous suivre.
J'aime bien. Et Louis Rastelli est là pour l'aspect historique, c'est ça, plutôt
de... Oui, il y a une expo de fanzine représentatif, voilà. Québécois.
Et une installation de Mimi Trayette, donc en poupée de tissu, au centre de tout ça. Donc le vernissage avait lieu mardi, enfin hier soir.
Ouais.
C'était assez chouette, hein, je crois, non? Oui, j'ai pas vu les concerts, mais le vernissage était pas mal, la glace à la pomme.
Le confort était bien aussi, puis ça se mariait bien, tout ça.
Bon, ben écoute... Allons-y pour une petite salve d'interview avec une petite salve de questions, peut-être, ou je sais pas comment on dit. Tu commences ?
Donc je vais peut-être commencer par Louis.
Oui.
Allez.
Donc Louis, en fait, c'est le spécialiste du fanzine québécois. Il est actif dans le fanzinat depuis les années 80. Donc tu as commencé, en fait, à participer à des fanzines tout jeune. Et puis tu étais responsable de Fish Piece, un fanzine qui a duré... je me souviens plus des dates.
Entre à peu près 1995 jusqu'à récemment.
Ça veut dire pipi de poisson, c'est ça? Non?
Oui, en fait, le nom, ça vient aussi d'un des ingrédients dans l'encre. Par exemple, l'encre sépia, qui vient de l'encre de pieuvre, en fait.
Donc, ouais.
C'est une façon de...
Un des ingrédients de l'encre sépia, c'est de pipi de poisson.
Mais de certains.
D'accord.
De certaines sortes.
Ok, ça, c'est pas mal à savoir.
Et donc, ce fanzine... est vraiment emblématique, il a de nombreuses collaborations, il a duré très longtemps, c'est voilà. Et puis Louis, il fait partie d'une association qui s'appelle Archives Montréal, qui a un fonds d'environ 6000 fanzines. Ils organisent depuis 10 ans Exposine, c'est le plus gros salon de fanzines de Montréal. Et il est aussi responsable du projet Distroboto, c'est la reconversion de distributeur de cigarettes en distributeur de mini œuvres d'art et mini zines qu'on a repris du coup à la française.
J'ai oublié ça dans la description de l'expo, effectivement. Ouais. Il y a un superbe distributeur un peu comme les distributeurs plaisir d'offrir, joie de recevoir, là,
voilà.
Qu'il y avait quand on était môme dans les foires. Ouais. Je sais que ça existe peut-être encore d'ailleurs.
Donc pour nous c'était important de l'inviter, voilà. Donc, au niveau des... Ça va, c'est bien résumé.
Ouais.
Donc pour les questions. En gros, comment tu décrirais l'évolution du fanzinat montréalais depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui?
Ben, surtout après avoir visité la fanzinothèque, je vois que les grandes tendances sont semblables un peu partout dans le fanzinat. Dans certains cas, c'est la technologie qui affecte un peu le format. On voit dans les années 80, par exemple, beaucoup plus de fanzines collectifs, des gens qui se mettent ensemble parce que... C'est un peu avant l'époque où les photocopieuses deviennent très communs, les imprimantes d'ordi. Donc souvent, les gens avaient affaire à se mettre ensemble pour payer les coûts d'impression pour un grand tirage, genre. Mais depuis que les années 90, je dirais que l'avance de la technologie des ordinateurs, le Photoshop, les imprimantes pas chères, on voit de plus en plus de gens individus qui font des fanzines. Et aussi, évidemment, quand on peut aller faire des copies à 5 cents la page, quelque part, et brocher sur place, plier, agrafer et tout, ça fait une certaine explosion des années 90 de fanzines de tout genre, individus. Mais par la suite, notre tendance, c'est que des fanzines noirs et blancs, photocopiés, qu'on voyait vraiment partout des années 90, fait en sorte que beaucoup de gens ont trouvé que c'est un peu la même chose, tous les fanzines se ressemblent, et donc on a vu au courant des années 90, beaucoup plus de sérigraphie, de formats originaux, formats différents, et je pense que ça nous amène un peu à ce jour. Bref, avec la sérigraphie qu'on voit dans l'expo et aussi à Montréal, il y a beaucoup d'ateliers, et bref, je pourrais dire que finalement, une réaction contre l'Internet et le fanzina noir et blanc copié normal fait en sorte qu'on voit maintenant vraiment une grande variété de formats et d'impressions. Ouais,
Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu, enfin moi je sens en France, c'est qu'il y a eu un peu une explosion, enfin une explosion, il y a eu un développement du fanzine un petit peu différent après la fin des années 70, après le punk, après le do-it-yourself, c'est-à-dire qu'avant on était plus dans un mode de fanzina un petit peu de fan justement, c'est-à-dire de gens qui parlaient de BD, de cinéma et qui en faisaient de temps en temps, mais... Et après ça, on est plus allé sur des gens qui créaient en fanzine, en fait.
En quelque part, c'est vrai que dans les années 60, 70 et même 80, c'était plutôt rare de voir un fanzine qui était plutôt l'expression artistique du créateur. Maintenant, depuis 15 ou 20 ans, on voit de plus en plus de publications qui sont vraiment quasiment des œuvres d'art eux-mêmes, des artefacts. Et non seulement fanzine dans le vieux sens où on parlait d'un sujet ou de leur groupe favori de la personne qui publie, etc.
Dans l'occurrence, toi, comment est-ce que tu es venu à l'univers du fanzine? Qu'est-ce qui t'a...
Ça a commencé moi-même avec le punk, disons, à 13-14 ans, disons, à environ 1983-84, en allant au disquaire pour acheter mes disques punk que je voulais acheter. Je voyais... à la caisse ou dans les disquaires des petits magazines un peu curieux. Je voyais souvent des noms des groupes que je connaissais sur la couverture. Et étant des choses très obscures, évidemment, j'en achetais aussi. Et c'est là que j'ai découvert le monde de la fanzine. Et peu après, je crois que j'avais 16 ans quand j'ai commencé à écrire des critiques de disques et des entrevues avec des bands pour un des fanzines plus reconnu à Montréal. Et,
d'accord.
Pour moi, c'était un honneur de le faire. Et ça, j'ai pas vraiment lâché depuis.
Ouais. De fil en aiguille, de lecteur, t'es devenu fabricant, éditeur, auteur.
Oui, rendu 23, 24, 25 ans. En fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il y en avait plus vraiment de bons fanzines à Montréal. Et je me plaignais à tout le monde, ceux qui avaient arrêté leur propre fanzine qui était bien. Je disais, il faut que tu continues, j'aimerais bien écrire pour vous. Puis, finalement, tout le monde me dit, écoute, fais-le toi-même. Et donc, c'est ça que j'ai fait avec Fishpiss. Et depuis ce temps-là, je pourrais dire que j'ai traversé l'autre côté du jeu.
Alors, moi, j'ai pas encore lu Fishpiss, mais d'après ce que tu me dis là, tu es plutôt du côté musical, dans un fanzine musical.
Quand j'ai commencé Fishpiss, il y avait le goût de faire un petit changement dans le format qu'on voyait à Montréal, qu'il y avait beaucoup de fanzineurs plutôt musique, mais qui parlaient aussi de, disons, cinéma alternatif, politique alternative, mais ça circulait surtout alentour de la musique. Mais j'avais aussi beaucoup de connaissances dans le monde de BD et dans le littéraire. Donc, quand j'ai commencé Fishpiss, je me suis dit, bon, on va en ajouter un peu de littérature, on va ajouter aussi un peu plus de graphisme et de BD underground, et on va garder aussi les critiques de disques et des entrevues avec des bandes et tout. Mais l'idée, c'était vraiment de maximiser dans un paquet, dans une publication, le plus possible de tous les facettes de l'aspect underground ou alternative qui se passait à Montréal.
Et donc, toi, dans ce premier fanzine que tu avais trouvé chez un disquaire, c'est quelque chose qui t'a... donc, ça t'a motivé pour le faire, mais j'imagine que tu as eu d'autres influences, d'autres choses qui t'ont marqué, peut-être dans le fanzina ou
mais
le
c'est
québécois,
sûr que aussi, peut-être ailleurs. Oui, au Québec, un peu comme tout le monde, les gens qui s'intéressent à ce genre de culture aimaient aussi beaucoup le BD underground des États-Unis, Robert Crumb, Zap Comics, des choses de ce genre. Donc, les influences étaient un peu plus nord-américaines.
Ouais.
Et c'était question de faire des choses semblables pour nous à Montréal.
Ah oui, je me rends pas compte, mais Montréal, c'est assez proche des États-Unis finalement. Ouais. Donc, tout ce qui était en anglais américain, c'était assez bien diffusé.
Par exemple, les disquaires que je fréquentais, souvent, c'était tout simplement le gérant du disquaire une fois par semaine ou deux semaines qui prenait une van à New York, c'est une distance de 6 heures, 6 ou 7 heures par auto. Et ramenait pas juste des disques, mais des fanzines. On parle peut-être de Profane Existence, Maximum Rock and Roll, des fanzines de ce genre. qui, évidemment, comme je dis, c'est des tendances nord-américaines qu'on avait, on était capable d'être exposé, nous, au Québec.
Et justement, par rapport à, enfin, pour rebondir, quelle particularité tu vois dans le fanzine québécois par rapport à vos voisins américains, états-uniens, mais et en au fait, reste du Canada même, ou à l'Europe, enfin voilà, qu'est-ce qu'il y a de spécifique?
Mais un peu avec le côté de la scène de musique, on a des influences presque autant européennes que nord-américaines. Et par exemple, quand j'ai commencé à voir des critiques de Fishpiste dans des autres fanzines américains, ils parlaient de la façon curieuse que c'était sérigraphié, qu'il y avait beaucoup de BD underground, mais vraiment, puis des styles assez extrêmes, des gens comme Valium, que je mettais dans ma fanzine, que pour eux autres, aux États-Unis, ils ne voyaient pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on a, je pense qu'on a amené au Québec à la formule de fanzine nord-américain, c'est exactement ça, c'est cette influence, c'est plus européen. Parce que, par exemple, du côté de BD Underground, c'est établi de longue durée en Europe. Et il y a aussi y a beaucoup de va-et-vient entre Montréal et l'Europe, et aussi avec Montréal, New York, États-Unis. Donc, je crois que c'est pas tout le Canada qui a cette même luxe d'avoir les deux audiences.
Et, je sais bien que c'est une question un peu bateau quand on rencontre des Québécois, mais est-ce que vous avez des liens avec comment ça se passe avec le milieu anglophone canadien, en fait? Est-ce que dans le fanzine québécois, est-ce qu'il y a une revendication linguistique ou identitaire, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas spécialement...
Peut-être dans certains cas. C'est sûr que sur le côté littéraire, c'est plus important de connaître la langue. Le côté BD, c'est très intégré. Il y a beaucoup de publications et beaucoup de BDS qui se traduit eux-mêmes d'une langue à l'autre ou qui publie.
Comme Julie Doucet, par exemple.
C'est ça, elle a été traduite dans deux langues quasiment dès le départ. Et en fait, a fait ses propres traductions. Même chose avec Henriette Valliam et plusieurs autres.
En tout cas, toi, dans tes fanzines et puis dans tes projets, à chaque fois, j'ai l'impression que tu fais attention qu'il y ait vraiment autant d'anglophones que de francophones. Après, je sais que dans Fishpiece, ça a surtout été des collaborations anglophones.
Mais Fishpiece, c'est une fois que ça partit, après le deuxième, troisième numéro, j'étais un peu guidé par qu'est-ce que je recevais par la poste. Et je recevais des soumissions d'aussi loin que l'Italie, Nouvelle-Zélande, de la France, l'Europe, que de plein de villes aux États-Unis. J'avais le luxe de faire un choix et de vraiment de mélanger un peu tout de qu'est-ce que je recevais. C'est surtout pour les projets collectifs comme Distroboto, Exposine, parce qu'on est à Montréal et il y a les audiences en deux langues. J'essaie de faire un effort pour que ça soit pas qu'il n'y ait aucune exclusion et qu'il y ait une certaine balance.
D'ailleurs, enfin, j'ai oublié dans ta présentation de dire que tu avais sorti un premier roman qui s'appelle « Fine Ending », du coup, que tu as écrit en anglais.
Oui, est-ce que j'aimerais aussi... j'aimerais bien le faire traduire aussi en français, parce que c'est un roman qui traite l'époque des années 90, de 1990 à l'an 2000, époque où le milieu culturel qui existe maintenant, surtout dans le centre de Montréal, évoluait. C'est un milieu culturel qui implique beaucoup de gens d'un peu partout, un peu des gens des États-Unis, un peu de partout au Canada, et aussi d'un peu de partout au Québec. Beaucoup de gens qui grandissent dans des petites villes à Québec, surtout à Montréal, pour leurs études universitaires, ils restent par la suite. Dans le roman, j'ai essayé de présenter une gang d'amis assez typique, fictif, qui passe de l'université à la pratique professionnelle d'un art vers la fin. Et on voit un peu, j'essaie de montrer un peu comment c'est évolué.
Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta démarche d'écrivain dans le cadre d'un roman publié là par Insomniac Press, par rapport à toi en tant qu'auteur de fanzine, enfin voilà, la transition puis...
Ben oui, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que souvent, avec Exposine, Distroboto même, et dans le milieu de la culture au Québec ou ailleurs, il y a tendance de penser du fanzina comme quelque chose de différent, séparé, la vraie pratique professionnelle. Donc, c'est souvent pas considéré comme valide. Mais dans mon cas, j'avais publié moi-même, à mon compte, à part de Fishpiece, plusieurs petits livres d'histoire que j'avais écrits. Et dans certains cas, il y avait très bien vendu... et tout. J'avais beaucoup de lecteurs de ces livres-là. Et finalement, au fil des années, à un moment donné, quelqu'un qui s'est retrouvé comme éditeur avec Insomniac Press, il planifiait leur parution de la saison et il avait pensé, on pourra demander à Louis s'il pourra élaborer sur quelques-uns de ces petites histoires qu'il avait publiées comme fanzine et pour en faire un roman avec. Et donc, pour moi, c'est un exemple personnel de la valeur de te publier toi-même, de te faire connaître avec tes propres fanzines et que c'est pas nécessairement une pratique différente que la pratique professionnelle. Une fois que tu es connu dans ce sens, ça peut rouvrir des portes, te faire connaître. Et comme moi, j'étais très heureux d'avoir une offre d'un vrai éditeur de publier quelque chose de plus long, un roman.
La dernière question, du coup, c'était par rapport à la reconnaissance du fanzina. En fait, je m'étais rendu compte que certains fanzines étaient catalogués et présents dans les bibliothèques publiques au Québec. Et pourtant, tu as des difficultés à ce que tes projets soient soutenus par les collectivités. Je trouve ça un petit peu paradoxal.
Ça l'est, surtout depuis que récemment, à Québec, un des buzzwords ou des mots populaires utilisés par les conseils des arts et tout, c'est la relève ou les émergents, les jeunes, la prochaine génération. Comment est-ce qu'on va leur aider et tout. Et la solution qu'ils semblent avoir trouvée, c'est de donner plein de sous à des institutions, des organismes, associations d'auteurs, de baby boomers, genre de plus vieilles générations, pour essayer de leur pousser d'accepter un peu plus dans notre cercle fermé professionnel quelques jeunes. Dans mon cas, évidemment, avec Exposin, on accueille 300 éditeurs à chaque année. La grande majorité, ça fait juste quelques années qu'ils sont en existence et tout. C'est un peu un paradoxe dans le genre, s'ils veulent vraiment appuyer ou donner un élan à la relève pour commencer leur carrière, je trouve ça un peu décevant qu'ils ne reconnaissent pas trop la validité du fanzina.
On a un peu le même problème avec le Festival d'Angoulême, vous savez.
Tu vois, tu
sais... Oui,
on a d'année en année, l'espace fanzina Angoulême réduit. Alors que justement, c'est les gens qui vont faire la bande dessinée de demain et on les parque dans un truc.
Mais une fois que les forces établies sont établies, souvent ils font beaucoup d'efforts pour se tiennent dans leur cercle fermé. Malheureusement, c'est vrai, ça a un effet un peu. Ça n'amène pas le support qu'il pourra avoir pour ces prochaines. Et souvent, ils vont se retrouver à avoir manqué le bateau sur la prochaine tendance ou. Et on va trouver autre façon de se débrouiller.
Si la saucisse pouvait parler, elle dirait la vérité. La chivo, quoi, elle est comme un saint. C'est du pot qu'il y a dedans. Avez-vous déjà mangé de la saucisse roulée? Avec quoi qu'elle est bourrée? C'est le secret des bouchers. D'arrête, 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 d'arrête. On me dit que c'est du pot, moi je vous dis que c'est du chien mort, du cheval ou du chat, du cochon il y en a pas, la guerre a pris de la boyau, la saucisse des chiens chauds, les endors sont pas contents que la saucisse rentre dedans, t'arrêtes une tarée, 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 une tarée.
Alors
qu'il fasse à chicaner, c'est une bataille de viande hachée. Les hot dogs me t'ont zappé, la saucisse me t'a beuglé. Les hot dogs sont insultés de ce que c'est d'immigrer. Moi je suis faite au Canada, puis toi tu viens des États. T'arrêtes une tatée, une tarlée, 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 une tarlée. Dans la crise du chômage, la saucisse est un usage. On la trouve un peu partout, à 3 livres pour 30 sous. On la voit sur le comptoir, du matin jusqu'au soir. Les hot dogs sont en colère, alors garde un œil de travail. T'arrêtes une tatite, 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 t'arrêtes une tatite. Pour les gens qui digèrent pas, il n'y a rien. aide mieux que ça. Et pour ceux qui n'y a pas de dents, diable, Dieu te prend le dent. Reconnaissez vos données, la saucisse que vous aimez. N'allez pas chercher plus loin, mangez tout ce qui est canadien. T'arrêtes une dent, les tout, 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 t'arrêtes une
Alors, je vais demander à Louis, tu m'entends?
Ouais, oui.
De désannoncer.
Ok.
C'était?
Ah, mais ça, c'était Madame Bolduc, ouais. Avec Si les saucisses pouvaient parler.
Alors, l'expo Fanzine Givré, donc au Confort Moderne du 13 avril au 12 mai, accueille également le groupe de sérigraphes 514, représenté ce soir donc par les...
Je sais pas si les, je trompe,
avec les créateurs de, du laboratoire, je sais pas si on dit ça, atelier, laboratoire, bureau,
non, atelier,
c'est atelier, c'est bien, ouais. Donc, atelier, c'est bien. Donc Jason Cantoro et Alice Jarry.
Bonjour. En fait, l'exposition Fanzine Givré, c'est une coproduction Fanzinothèque Nyctalope Melody.
Ouais.
Et Nyctalope Melody ont programmé 514. Et nous, on était bien contents du coup de découvrir
leur
travail.
Parce que 514 a participé au dernier programme, c'est ça?
Oui, le dernier festival OFNI. Oui, le dernier festival OFNI en novembre dernier. Donc, quand on a été faire la sélection des films à Montréal. Stéphane a visité l'atelier de 514, on a été tout à fait séduits, on leur a proposé quelques pages de notre catalogue, en fait.
Et puis, la Fanzinothèque, avec l'atelier de sérigraphie qu'on a depuis 1994, voilà, c'était évident que
ça allait nous plaire.
Donc, vous avez commencé plutôt dans le milieu rock, avec la production d'affiches, pochettes de disques, affiches de groupes. Et actuellement, vous développez plutôt un travail personnel, expérimental, plus libre. Je sais pas, mais au niveau des ambiances, je trouve. Enfin, donc c'est la superposition en fait de plusieurs techniques d'impression. Au niveau du rendu, ça fait un petit peu, comment dire, je sais pas si vous voyez les transferts de visuels avec du trichloréthylène.
Ouais.
Ouais. Il y a un côté comme ça passé. Et des ambiances.
Pour expliquer peut-être un peu aux auditeurs, c'est quand par exemple on prend une page de magazine, on badigeonne de trichloréthylène en
c'est
fait.
C'est plus autorisé le trichlo, mais à l'époque.
Et après on appuie ça sur une feuille et ça fait une espèce de monotype, quoi.
Donc, voilà, c'est ça. Avec un grain particulier. Et du coup, là, il y a des ambiances très particulières, à la fois vieillies, intemporelles, une ambiance, je ne sais pas comment décrire ça, pas nostalgique, mais je ne sais pas comment.
Ben, disons que dans ce que j'ai vu, en tout cas, vous réutilisez beaucoup d'images anciennes, de vieilles photos notamment, de photos d'animaux, je sais qu'il y a des photos de fanfares, et des photos de, je ne sais plus, des photos de groupes, des choses comme ça. Ces choses-là, ça vient en fait par un goût, je sais pas.
Ben, ça vient de plusieurs sources en fait. Je pense que notre recherche visuelle se nourrit continuellement, Jason et moi, autant dans notre travail collaboratif que dans notre travail personnel. On trouve des vieux magazines, on achète des trucs sur eBay, on prend des photos nous-mêmes, on dessine, on scanne, on retape,
on détourne.
Ouais. Donc c'est ça, c'est beaucoup de manipulation d'images.
C'est des rencontres d'images, en fait.
Ouais.
Parce qu'effectivement, enfin, dans l'expo, en tout cas, on a l'impression que vous réutilisez, je sais pas, plusieurs cadres de sérigraphie, plusieurs écrans que vous réutilisez sur différents supports, agencés complètement différemment.
Ouais.
On a l'impression que même si la sérigraphie, c'est effectivement quelque chose pour faire des choses en série, vous l'utilisez de manière quasiment unique, à la manière de peut-être des artistes pop, un peu comme Rauschenberg, peut-être, ou des gens comme ça. Je dis peut-être des bêtises, hein, vous m'arrêtez.
Non,
ça, c'est des références que vous assumez, ouais.
Ouais. Ouais. Ben, en fait, oui, Jason et moi travaillons beaucoup à partir de monotypes, dans le sens que, comme Cécile l'a dit plus tôt, on a un background où, quand on a appris la sérigraphie, on l'a appris d'une façon assez traditionnelle à l'université, puis il nous expliquait, une édition en sérigraphie, ça se doit d'être identique, d'être numérotée, etc., etc. Mais à la longue, à force de faire ça tous les jours, on se rend compte que, t'as compris comment ça fonctionne, est-ce qu'on peut aller plus loin avec le médium? Donc, la façon qu'on travaille, c'est que, chaque pièce de papier est unique, chaque panneau sur bois est unique, et puis c'est toutes des déclinaisons d'images similaires, mais recombinées de façon différente.
Oui, c'est un peu aussi, au lieu de passer beaucoup de temps à l'ordinateur, essayer de faire plusieurs agencements et ensuite de reproduire de façon... en édition, une image, on va faire une recherche visuelle qui est au niveau de de l'impression elle-même.
Mm-hmm.
Donc on joue un peu aussi avec les erreurs et on réapprend à contrôler ces erreurs-là et à les reproduire de façon un peu aléatoire, mais voulue aussi. Donc,
Ça, c'est un travail effectivement vraiment artistique, dans le sens où c'est des œuvres uniques, c'est des choses qui sont faites pour être exposées. Mais vous avez aussi une pratique d'affiche, je crois, et de d'affichiste de concerts en particulier, enfin, ce que j'ai vu sur le site.
Qui est un peu en déclin, étant donné les nombreux réseaux sociaux qui mènent le marché. Et jumelé avec le fait que les groupes de musique ont de moins en moins d'argent vu la copie
Le piratage.
Le piratage, oui.
Oui, puis je pense que on doit beaucoup au milieu de la musique, en fait, parce que quand on a commencé l'atelier, Jason et moi, on avait chacun des jobs ailleurs. En fait, on travaillait tous les deux en design, puis en plein de trucs comme ça. Puis, en fait, tous nos amis étaient dans le milieu musical. Donc, pour nous, ça n'a pas été compliqué de se bâtir une clientèle dans ce milieu-là. Donc, ça coulait de soi.
Parce que du coup, ça ressemble un petit peu. Vous connaissez sans doute les gens de Bon Goût à Berlin, qui ont peut-être aussi un peu la même.
Non, mais malheureusement, on n'a pas d'affinité sociale encore avec ces gens.
Mais vous voyez à peu près ce qu'ils font, parce qu'ils ont fait justement beaucoup d'affiches des enfants encore, des affiches de concert. Ils ont aussi une pratique.
Ils sont plutôt sur des gros festivals que sur des petits groupes, hein, Bon Goût.
Oui, c'est vrai. Je sais pas trop, mais je connais pas suffisamment. Je sais qu'ils ont fait les Eurocaennes notamment. Ils ont fait beaucoup d'affiches pour les Eurocaennes.
Après, je me rends pas trop compte de. Je sais pas exactement pour quel groupe vous avez travaillé. C'était vraiment des petits groupes alternatifs ou.
C'est des groupes de la scène montréalaise, Malajube, The St. Catharines, Yesterday's Ring.
Des groupes qui sont morts aussi. Mm.
Et maintenant, donc à présent, vous avez tu dis cette activité-là en déclin, donc vous êtes plutôt sur de l'expo, j'ai vu que vous faisiez des affichages dans la rue aussi, j'ai vu des grands panneaux d'affichage comme ça.
Ouais, Jason, il fait des projets de murales dont il pourra vous parler plus précisément, mais je pense que notre travail a pris un autre tournant, dans le sens que oui, on va encore collaborer avec le milieu de la musique, mais on pourrait décrire notre travail comme étant du sur-mesure. Ça va toujours partir de nos œuvres, de notre imagerie, de notre recherche personnelle, mais ça peut se décliner autant dans un projet commercial que dans une exposition qui est plus expérimentale, une installation. Donc, je pense que c'est ce qu'il y a de bien avec la façon qu'on aborde les choses. Donc, on voit autant un projet commercial avec une agence de pub comme étant de la recherche qu'une toile qui va être signée et vendue dans une exposition. Donc, on n'a pas de malaise avec ça. Ça va toujours être nos images, puis c'est pour ça qu'on prend ces clients-là maintenant.
Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des réseaux et des liens entre ateliers de sérigraphie à Montréal?
Il y a de plus en plus d'ateliers de sérigraphie à Montréal. Ouais. Un des bons qui performe de façon plus internationale, ça a été Série Pop, qui a un peu donné le ton à tout le monde. Donc on est parti peut-être, serait dans les mêmes années environ que Série Pop. Puis depuis ce temps-là, plusieurs ateliers sont nés à Montréal, mais tout le monde a une bonne relation les uns entre les autres. Là. C'est pas une relation de compétition du tout.
Non, c'est assez fraternel, en fait. Tout le monde se connaît, puis c'est tellement petit. Ben, pas la ville Montréal, ben oui, c'est assez petit, mais c'est tout des gens. On a étudié dans les deux principales universités, en art ou en design, donc on se connaît tous de nom, puis c'est pas compliqué qu'on fait le tour, là.
Montréal, c'est quand même un gros village.
Bonjour madame.
Bonjour madame.
Bonjour madame.
Bonjour madame.
Bonjour madame.
Bonjour madame.
Bonjour madame. Bonjour madame. Le magazine pour animaux de compagnie.
Oh, petit jingle improvisé, c'était le chevalier de Rinchy. C'était un choix d'Hélène qui est derrière mais qui ne parle pas pour le moment. Et troisième personne à être invitée donc pour Franzine Givré. Mimi Traillette, qui par ailleurs a fait ses études de beaux-arts à Poitiers.
Eh oui.
Eh ouais. C'est dingue.
Et qui a même chanté dans un groupe.
Très connu. Un groupe culte.
Que vos tympans auront peut-être oublié avec beaucoup de bonheur.
J'ai nommé Maïté les Moules.
C'est dommage, on aurait pu.
Non, vous n'auriez pas pu.
Il n'y a pas de disque.
Si, il y en a. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée.
Et d'ailleurs, tu participais à un fanzine à l'époque qui s'appelait La Binouze.
Oui.
Oui. Et puis tu as continué à être bien en réseau avec plutôt la bande dessinée rock et BD avec Chester.
Avec My Way, le fanzine de Chester.
Et tu es régulièrement à Montréal. à Angoulême sur le festival.
Ouais, bah ça fait peut-être 2-3 ans que j'y vais plus trop, hein, parce que ça fait quand même cher pour aller faire une semaine, aller faire la fête à Angoulême puis voir tout le monde. Puis aussi, bah maintenant, comme on disait tout à l'heure, ouais, la bulle fanzine à Angoulême, ça rétrécit à vue d'œil. Puis ouais, j'ai vraiment vu les dernières années. J'ai pas connu la grande époque où il y avait des décos incroyables par la fanzine ou tout ça dans la bulle, quand c'était bulle New York.
C'est toujours bulle New York,
mais c'est que ça s'est déplacé un peu aussi.
C'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'elle a voyagé pas mal.
Ouais, cette bulle, quand on est au fin fond, près de la rivière.
Voilà. Donc en fait, c'est,
mais ouais, c'est, je trouve ça super triste que tout le monde soit cantonné dans un petit truc, puis que tout le monde est super sage maintenant dans la bulle fanzine. Nous, on est le stand où ça fout le plus le bordel finalement. C'est les vieux punks pourris dans leur stand, et puis. Tu vois, ça manque d'ambiance quand même maintenant. C'est un peu comme aller chez un gros libraire, mais on paye l'entrée, quoi.
Donc toi, t'es illustratrice, t'es plutôt bande dessinée, puis après, t'es allée plus vers du volume. Tu fais partie d'un collectif qui s'appelle Crazy Dolls.
Oui, collectif international de poupées Destroy.
Voilà. Et tu t'occupes d'une galerie alternative à Montréal qui s'appelle L'Usine Sans Issue, avec Eric Brown.
Oui, Eric Brown qui édite...
Fanzina aussi, ouais.
Ouais, bah oui, lui, il édite la revue Sans Issue depuis une bonne dizaine d'années maintenant.
On en a à la Fanzinothèque,
d'ailleurs. D'accord, Sans Issue, c'est
ouais.
Sans Issue.
Sans Issue, ouais, voilà, c'est un super jeu.
J'avais pas chopé.
J'ai mis des années à le comprendre aussi.
Il y a un gros fanzine d'accord. collector qu'on a à la Fanzinothèque. T'as la couverture qui est en métal, vraiment métal.
Moi, j'en avais une avec du...
À chaque édition, il fait une couverture spéciale.
La peau de léopard, genre un peu, je m'en
ouais,
rappelle.
Ouais, Moumoute, il y en a un. Le dernier groupe qu'il a sorti, il a fait une édition limitée, je pense qu'il y avait 10 maximum, avec une couverture en caoutchouc moulé.
Ça fait un moment,
qui est photographié sur les autres copies.
Ça fait... Eric Brown, il a quel âge fait...
Il a 40 ans, Eric.
Ah ouais, ouais, d'accord. Ouais. Ça fait un moment qu'on voit ça.
Ouais, donc Sans Issue, ça a commencé. Lui, c'est son collectif graphique qu'il édite depuis longtemps. C'est de la BD muette, donc c'est international, tout le monde peut comprendre. Et puis, il y a un moment, il a décidé qu'on faisait une expo d'une semaine. Ça s'appelait Usine Sans Issue. Le principe, c'était qu'on était le plus possible sur place à produire des petits trucs, puis à accrocher au fur et à mesure. Puis de fil en aiguille, ça s'est transformé en galerie. Puis ça fait 3 ans qu'on existe maintenant. On fait des expos tous les mois avec entre 25 et 30 artistes.
Chaque expo, entre 25 et 30 artistes
ouais, ou... C'est du boulot à accrocher. Puis il y en a du plancher au plafond en mélangeant le boulot de tout le monde.
D'accord.
Donc ça donne des clashs assez intéressants sur les murs des fois.
D'accord. Il y a beaucoup de petites galeries alternatives à Montréal.
Ouais.
Je repense à l'Aspirine Galerie notamment.
Qui a maintenant fermé. Il y a Glamour, studio de tatouage à Saint-Henri qui font des expos aussi, qui ont souvent des boulots très très bien qui montrent.
Et
il y a Monastiraki aussi que Louis connaît bien, c'est Billy Mavreas. Enfin, il y a pas mal de petits endroits et aussi des bars comme au Cheval Blanc, ils font des expos assez souvent vu que c'est Simon Bossé qui est sérigraphe qui s'en occupe souvent.
J'ai l'impression que c'est plus facile peut-être d'installer ce genre de lieu à Montréal qu'en France. Et je sais pas, comment est-ce que tu vois, comment tu différencies la culture underground de, voilà, française et puis.
Déjà, nous, pour enregistrer une compagnie ou ouvrir un commerce, c'est vraiment. C'est quand même assez simple, un commerce. Il y a juste à avoir l'autorisation pour le local commercial, à faire le plan par un architecte, et puis en gros, tu payes tes taxes d'affaires sur ton loyer, et puis c'est bon, t'es lancé.
Oui, parce que Aspirine Galerie, c'est Fabesco qui est française, qui n'a pas réussi à faire ce qu'elle voulait à Paris, puis qui est allée à Montréal pour monter sa galerie, ça.
Bon, en fait, c'était un projet qu'elle voulait monter. C'était un projet, une idée d'un ami qui devait faire à deux, finalement, elle s'est retrouvée à le faire toute seule. Puis elle ne se sentait pas forcément l'âme d'une galériste au début, et puis finalement, comme c'était un peu dur. Ouais, c'est pas forcément facile de s'en sortir en ayant une galerie à Montréal. Puis du coup, ouais, c'était trop dur. Et puis elle avait des ennuis avec le proprio et puis elle a fermé finalement.
D'accord.
Puis elle préfère pouvoir faire son boulot à elle et puis exposer ailleurs sans forcément gérer une galerie.
En tout cas, pardon.
J'ai un chat dans la gorge.
Le projet là d'exposition, il est né aussi d'une visite que j'ai faite, d'un séjour que j'ai fait l'année dernière à Montréal. J'étais accueillie par Mimi, puis j'ai rencontré plein d'acteurs de la scène comme Louis, et puis je me disais que la culture était beaucoup plus rock, enfin on a l'impression même en se baladant qu'il y a quelque chose plus comme ça. Tu le ressens toi Mimi entre les deux pays?
Bah je pense que c'est peut-être un côté plus anglo-saxon qu'on a, vu qu'on a un peu les deux côtés dans notre culture. Je pense que c'est vraiment le côté où t'as le droit de te balader avec la tête que tu veux, avec les cheveux n'importe comment, sapé, mais tu vois, le truc le plus débile que tu veux, puis tout le monde te fout la paix, donc c'est peut-être plus rock'n'roll de ce côté-là, les gens se permettent vraiment parce que ça passe, quoi. Donc ouais, ça doit influencer tout le reste aussi, je pense. Puis t'as un côté très... Chez nous, avec l'usine, c'était aussi l'idée de... on va pas attendre qu'il y ait genre une galerie bien établie, connue, machin, qui décide, qu'ils aiment ce qu'on fait, puis qu'ils veulent le montrer. On s'est dit, ben nous, on va le montrer nous-mêmes, puis on va montrer les boulots d'autres gens autour, qu'on trouve qu'ils ont des, qu'ils font des choses très valables, et puis que ça vaut le coup de les montrer, puis qu'ils auraient pas forcément beaucoup d'occasions de le faire sinon, quoi.
Et le mouvement alternatif québécois, il est quand même actif depuis, depuis très longtemps. Comment tu te situes, toi, par rapport au... aux anciens comme Cyrice, Simon Bossé, Valium, Fidel Castré, tout ça?
Bah, il y en a plusieurs que je connais. Avec Cyrice, on avait fait une entrevue dans la Binouze, du coup on était restés en contact pendant un bout de temps ensemble, on s'envoyait des mails. Fidel Castré, je la connais un peu, on a traîné ensemble pendant un petit bout de temps avant qu'elle parte dans l'Ouest canadien.
C'est la même que Geneviève Castré?
Ouais.
C'est la même.
Oui, elle est redevenue Geneviève après un moment, mais au tout départ, quand elle commençait la BD, c'était Fidel Castré son nom. Donc ouais, bah, comme il y en a beaucoup dont je lis les BD et puis que je vois leur travail depuis super longtemps, donc moi je m'y mets vraiment, forcément quelque part ça m'a influencé. Je veux dire, Julie Doucet, moi j'adore ses BD, puis ouais, ça m'a, quelque part ça m'a quand même influencé beaucoup. Mais ouais, après j'ai développé mon propre truc, puis maintenant avec le côté où je bosse avec du textile, je pense que ça devient, enfin là avec l'install qui est au confort moderne, c'est vraiment quasi de la BD en volume, quoi. Ça a un côté très narratif quand même.
Donc vas-y.
Justement, pour rebondir sur le côté, là t'arrives au textile, puis il y a une bonne tendance depuis là, une paire d'années, avec beaucoup de créateurs qui font de la poupée comme ça, un peu destroy. D'ailleurs, tu fais partie donc de ce collectif, la Crazy Dolls.
Ouais.
Comment tu, je sais pas, t'expliquerais cette tendance actuelle. Comment tu te situes par rapport à ça?
Bah moi c'est un peu, enfin, toi, de la couture, tu peux vraiment bricoler chez toi, ça te prend pas un équipement par une machine à coudre, quand même, c'est bien, mais c'est pas un gros investissement matériel. Moi, je récupère énormément de tissus, donc toi, c'est bien aussi, c'est de la récup, il y a moyen de réutiliser sans acheter plein de tissus neufs qui coûtent super cher, et puis il y a moyen de faire des collaborations aussi, enfin, ouais, puis c'est très tactile, enfin, ça me plaît énormément de travailler comme ça. Et puis,
il y a un peu la même simplicité qu'il y a dans quand on fait une bande dessinée, finalement. Enfin, le fait que ça soit facile.
Ouais, c'est aussi de trouver une façon de traduire en volume. Toi, un dessin, les poupées qu'il y a là à l'expo, c'est vraiment. Enfin, il y a des amis hier qui me disaient, ouais, c'est vraiment tes bonhommes, mais en volume, quoi. Tu sais, ils prennent vie quelque part, c'est assez rigolo. Ouais.
Avancées sont timides chaque fois que je m'approche du vide. On me croit lâche, pas assez solide près de là. Plomb quand rien ne me décide d'aller y plonger pas. Ça n'est pas que je manque de courage ou que je sois perdu dès que ça m'engage. S'il y a risque de plonger, je nage loin de là, laissant passer l'orage, mais ne rêvant que de ça. Je confonds le vertige et la voltige dans le fond, la peur. peur de se perdre et de se trouver sans chemin, sans horizon. Et celle d'aller toucher le fond. Il est pris, les amours sont infidèles. Il se dit qu'il se pourrait la vie belle de son lit, qu'il pourrait toucher le ciel, mais la vie, l'indécis, la voix filée loin de lui. S'il confond le vertige et la voltige dans le fond, c'est la peur de se perdre et de se trouver sans chemin, sans horizon, que celui d'aller toucher le fond.
Donc c'était, vas-y Hélène.
C'était De Broise avec le Vertige et la Voltige, qui est aussi le titre de son album 7 ou 8 titres. D'accord. Chez ZF Prod.
Donc on dit au revoir à nos amis québécois. Donc je rappelle que l'expo Fanzine Givré a lieu du 13 avril au 12 mai sur la mezzanine du confort moderne, et que l'expo est constituée donc de sérigraphie de l'atelier 514, d'une installation avec des poupées de Mimi Traillette et d'un fond fanzine amené par Louis Rastelli, c'est ça ?
C'est ça.
Me plante pas. Bon voilà, j'espère que vous avez passé un bon séjour en France et je sais pas, vous avez peut-être des commentaires à faire, ça se passe bien, vous êtes bien accueillis par la Fanzino.
Oui, vous êtes très professionnel, merci.
Oui, oui.
Moi ça me donne presque envie de revenir pour de vrai.
Ouais, c'est du direct, hein, vous pouvez être honnête.
Et bien à la prochaine et bon appétit.
Merci.
Que vous allez,
merci à vous.
Et alors, dans la suite du programme, l'équipe... traditionnel et Poitvine, on est là pour ça, on va prendre les micros.
Oui, bonsoir Hélène, bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Et bonsoir Anthony.
Anthony n'a pas de micro, il est puni.
C'est puni Anthony.
Et j'allais dire, on pourrait aussi se réécouter un petit jingle ou deux du Chevalier de Rinchy, si on veut par exemple envahir le
en
studio.
En attendant de s'installer.
Oui, parce qu'un petit jingle du Chevalier de Rinchy, ça dure en général une quinzaine de d'accord. secondes pour en avoir deux. Alors au pif,
allez.
Profitons-en. Si.
Sur la FM Radio Dio.
Alors vous n'êtes pas sur Radio Dio, vous êtes bien sur Radio Pulsar. Et c'est, on est là pour ça, qu'est-ce qui se passe? Que vous faites-vous les filles?
On te quitte,
ouais, c'est ça, cassez-vous. Bonsoir Anthony.
Bonsoir. Et voilà.
Ils vont tous se réfugier
là-dedans. Ah, bonjour.
Je précise,
studio.
Je précise pour les auditeurs, à Pulsar, il y a un local technique où moi je suis, il y a une vitre, et de l'autre côté, il y a le studio où je vois à présent mes amis s'installer avec leurs casques et leurs micros.
Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu faire ça pendant un titre quand même.
Mais le problème, c'est que les titres du Chevalier de Rinchy sont trop courts.
C'est malin d'avoir amené des pistes aussi courtes.
Mais ouais, c'est drôle, non? Moi j'aime bien. Voilà, ouais. Le Chevalier de Rinchy, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et je pense qu'ils sont nombreux, c'est la moitié du duo Le Club des Chats, un groupe parisien qui est bientôt en tournée. Assez reconnu quand même, ouais. Et le Chevalier de Rinchy, c'est sa signature quand il est
bon, allez les copains, il nous reste un quart d'heure, du coup.
10 minutes pour parler de 7 films.
Et ben, on va les faire tous en même temps. Il faudrait essayer de trouver le point
voilà,
commun.
Chacun parle d'un film.
Trouver le point commun entre les chèvres de Patagonie, White Material.
Les chèvres de Patagonie. Les chèvres du Pentagone.
Pardon.
Les chèvres du Pentagone de Grant Heslow avec Ewan McGregor et
George Clooney
et Jeff Bridges et Kevin Spacey. Alors que de la belle brochette.
Alors Thomas, tu as aimé ce film?
Ouais, alors moi j'ai bien aimé. Enfin, disons que c'est une comédie. Je raconte juste le sujet en deux secondes. C'est basé sur l'histoire apparemment réelle d'un bataillon de soldats engagés dans l'armée américaine qui a été formé à devenir un peu des super-héros. Enfin, c'est comme ça, même des Jedi, ils disent dans le film. C'est-à-dire qu'ils sont entraînés à avoir des capacités psychiques par les chefs du Pentagone. C'est parce qu'à un moment, il y en a un qui fixe une chèvre et jusqu'à temps qu'elle meure. Enfin, il lui provoque une crise cardiaque à la chèvre. Donc Et donc cool. C'est assez improbable, mais effectivement, apparemment, ça a existé. Et ce groupe-là a existé. Et au départ, ça commence. En fait, ce truc-là est déjà fini. Ce truc-là, c'est-à-dire que ce groupe-là a été dissous, et il y a un journaliste qui est joué par Ewan McGregor qui va s'intéresser à ça, parce que suite à un peu une crise, sa copine le quitte et il a envie d'aller de faire autre chose. Il a un petit journal de province et il se barre en Irak et il tombe sur George Clooney, dont il a entendu parler. Je sais plus quel est le nom du personnage de George Clooney, et qui faisait partie de ce groupe-là et qui était apparemment des plus brillants psychistes. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un film, une comédie sur la Seconde Guerre en Irak, celle avec George Bush Jr. Donc on se balade en Irak. On voit pas vraiment la guerre en fait. On a l'impression que ça s'est un peu stabilisé tout ça. Le film alterne le présent de la narration avec Clooney et Ewan McGregor qui partent en Irak, et un passé qui décrit l'histoire de ce groupe qui a été dissous au bout d'un moment parce que les Américains ne croyaient plus, l'armée ne croyait plus au potentiel de ce genre de groupe. Et à l'arrivée, le film lui-même est peut-être un peu bateau dans sa forme, dans sa manière de filmer. Il y a des gags qui sont extrêmement drôles. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça m'a fait beaucoup rire. J'ai retrouvé, finalement, en y réfléchissant, j'ai retrouvé quelque chose que j'aime bien, enfin, j'ai l'impression d'avoir pas vu ça depuis longtemps dans un film. Ça va peut-être vous paraître un peu abrupt, mais j'ai rapproché ça un peu du Baron Munchausen de Terry Gilliam. C'est-à-dire, dans le sens où, dans le Baron Munchausen, en fait, finalement, il fait l'apologie de la fantaisie, enfin, du conte, finalement, de la croyance, presque. Tu vois, c'est important de croire à quelque chose, etc. Et je rapprocherai ça aussi des grands films de Frank Capra, comme Monsieur Smith au Sénat, ou Extravagant Mr. Deeds, dans le sens où on est face à des personnages d'idéalistes un peu candides, face à des cyniques, en fait, là en l'occurrence c'est l'armée, face à l'armée, à une armée qui est devenue complète, enfin une à des personnages qui sont là, par exemple il y a le mec qui joue un peu le méchant, qui quand dans le présent de la narration a créé une boîte où il utilise des choses il fait de la manipulation en fait.
Mais raconte pas la fin.
Non mais voilà, mais c'est pas voilà, c'est cette idée-là que j'aimais bien dans ce film-là, enfin de retrouver ça, de cette idée de, je sais pas, est-ce que c'est un film sur la foi ou, enfin disons, ces mecs-là sont des idéalistes, ils disent ouais, nous on va créer un bataillon de super-héros qui vont être destinés à faire la paix plutôt que la guerre, et ils disent, bon, c'est vrai que ça fait marrer parce que c'est des gros baba cool en fait, hein. Ils font des salutations au soleil, ils font du yoga, ils font des machins, etc. Mais finalement, s'il y avait à choisir un camp dans ce film-là, ce serait plutôt vers eux, c'est vers eux que va notre sympathie, que plutôt que les crapules qu'ils ont en face, quoi.
La paix plutôt que la guerre.
Ouais, bah, je sais, c'est un peu neuneux.
Non, ils sont pour une guerre non létale.
Ouais, c'est un peu neuneux dit comme ça, mais c'est pas seulement ça, c'est plus cette idée des mecs qui croient en quelque chose qui finalement, nous on n'y croit pas, hein. Même si ça la CIA ou le Pentagone y a cru, on n'y croit pas une seule seconde que les mecs peuvent déplacer des choses avec la force de la pensée, des choses comme ça.
Non, mais en fait, c'est plutôt une course à l'armement, en fait, une bête course à l'armement, partie sur une partie d'une rumeur,
ouais, voilà, ouais.
Entre soviétiques et américains, dont les Français seraient l'initiative, justement, dans le film.
Voilà.
Il est l'heure de se quitter, non ?
Non. Ah bon. T'es pas convaincu ?
Non. Non, mais si, c'est une assez bonne lecture du film, je sais pas. Enfin, c'est intéressant ce que tu dis là.
Mais je sais pas, c'est en y réfléchissant après le film. Disons que j'ai bien aimé, ça m'a fait rire. Après, je trouve que la forme est assez classique, la fin est peut-être un petit peu bateau. Mais je pense que ça, quelque part, je pense que ça dit ça. Enfin, ça on est. Je sais pas.
Ça t'a pas choqué, toi, les prisonniers irakiens
Si, un peu. tu te rappelles les films
d'Orange,
mais j'aime bien la fin aussi, où t'as Ewan McGregor qui a publié son reportage, et tout ce qu'il en reste quand ça passe à la télé, c'est une parodie, genre les prisonniers irakiens, on les soumet aux pires chansons de Chantal Goya, en gros. C'est ça, hein. Et donc en fait la portée de son reportage n'a plus aucun sens, quoi. C'est-à-dire que par la seconde guerre, par la dérision, on a complètement détruit son message, tu vois. Et ça, j'aime bien cette idée, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit régulièrement à la télévision actuelle. C'est un truc qui tu détruis n'importe quoi, tu vois, depuis les nuls ou des choses comme ça, bon, c'est bien, mais finalement, est-ce que d'un certain moment, quand on accumule ce genre de choses, on n'est pas en train de on est dans le cynisme, en fait, plus que dans l'idéalisme, justement. Mmh. Voilà. Voilà. Bon, Single Man, vous êtes combien à l'avoir vu?
Ah, moi je l'ai vu, oui.
Moi aussi, ouais, moi j'ai aussi. Vu Single Man, donc qui est passé auditrice, qui ne passe plus malheureusement, je crois. Hein. Enfin, malheureusement, qui ne passe plus. Donc avec, je ne me rappelle plus les acteurs, là, pour le coup, et le réalisateur.
Tom Ford, le réalisateur, ouais. Et l'acteur principal, je ne me souviens plus de son...
C'est un acteur britannique, ouais. Mais je ne sais plus. Et il y a aussi Julianne Moore, qui est toujours extraordinaire.
Un peu moins extraordinaire là quand même.
Ouais, un peu moins, mais c'est marrant parce que j'y ai pensé après, mais en fait ce film, moi, il m'a fait un peu penser, alors un peu moins bien.
À Loin du Paradis.
Ouais.
Bah oui.
Bah moi aussi.
On est exactement les mêmes, non, la même époque, les mêmes thématiques. Oui, oui,
oui, oui. Ah, c'est un petit peu plus après quand même. On est plus déjà dans la fin des 60s. Bon.
C'est moins coloré. C'est vrai, ouais. Là, on est plus dans des tons beige-gris, alors que Loin du Paradis, c'était des couleurs. Un peu plus vive, voilà, et l'histoire n'est pas tout à fait la même, mais voilà, l'actrice Julianne Moore, on y pense un peu, par l'époque, et puis, oui, par un côté, c'est un film, voilà, exactement, par le mélo, et puis, un côté assez chic. Enfin, je sais pas comment dire
ça. Oui,
on est dans un milieu assez bourgeois.
Oui, pas seulement. Intellectuel, je veux dire de l'image aussi. Ouais. Enfin, c'est pas juste le milieu représenté qui est chic et bourgeois, c'est la façon de faire, assez chic.
Ouais. Enfin, moi, ça m'a dérangé en fait.
Ouais, moi aussi.
Toute cette esthétique un petit peu publicité de parfum pour homme m'a un petit peu fait chier sur la longueur.
Ouais. Peut-être rappeler un petit peu le sujet, c'est-à-dire que c'est un homme qui dès le départ, on le sait d'ailleurs, qui était en couple avec un autre homme, et qui, cet autre homme est mort d'un accident de voiture, et donc le mec se retrouve seul, et a du mal à vivre ce décès, enfin, on comprend.
Ouais, là, c'est quelques mois après.
Et sa meilleure amie, donc, est jouée par Julianne Moore, on sent qu'ils ont été plus ou moins amants avant un moment, on sait pas trop.
Il le dit.
Et ce mec-là est prof de littérature dans une fac, et une relation commence à se nouer avec un de ses étudiants. Voilà.
Et c'est essentiellement une journée de sa vie.
Ouais, c'est une seule journée.
Voilà. C'est une journée où il décide plus ou moins
à des flashbacks.
De...
Ouais.
Mêlé à des flashbacks. Voilà.
En fait, on sent dès le début du film que cette personne est suicidaire. Et donc, son seul objectif, finalement, c'est de tenir une journée supplémentaire. Enfin, il l'annonce comme ça, en tout cas, au début du film. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai bien apprécié, c'est... alors je critiquais tout à l'heure l'esthétique tirée au couteau là du film, mais à la fois il y a on sent dans le traitement de l'image des moments plus ou moins difficiles pour le personnage. Enfin, il y a beaucoup de changements d'intensité des couleurs, justement, là encore, des façons de filmer un petit peu différentes. On est soit plus rapproché, soit plus loin quand, justement, le personnage est en réflexion ou l'est un peu moins. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont plutôt maîtrisées. Et moi, le film, finalement, je suis sorti du film, je me suis dit, oh, c'était vraiment... c'était long, ennuyeux. Enfin, j'avais pas mon compte. Et finalement, je trouve que le film a, dans les jours qui ont succédé, a vraiment très bien mûri. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un objet assez intéressant, finalement, intéressant dans le personnage qui est hyper maîtrisé, quoi, par l'acteur là, par cet acteur, et qui... Enfin, je trouvais ça bien comme ego trip, quoi, finalement, d'un personnage suicidaire, mais qui a à la fois tout pour lui, quoi. Je trouvais, en fait, il y avait quelque chose de contradictoire
C'est un peu la journée où tout le monde l'aime, qui est aussi la journée où il aurait décidé de mourir. Enfin, deux. Mais bon, en même temps, voilà, c'est ce qu'il envoie et ce qui nous est montré aussi de cette journée.
Parce que nous, le réalisateur nous fait percevoir, et que ça. Lui passe totalement à côté, ou même va jusqu'à l'esquiver, quoi. En l'occurrence, cet adolescent qui lui fait des avances clairement, qui le salue alors qu'il passe à 50 mètres de lui à l'université, enfin. Voilà, lui, il évite ça, quoi. Il veut à tout prix éviter ça. Mais ça se comprend aussi par l'intermédiaire de son histoire, je sais pas.
Mais ouais, moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant comme film.
Donc, Single Man de, comment tu dis ?
Tom Ford.
Il avait fait d'autres films ?
Non, je crois que c'est son premier film. C'est un couturier, je crois, en fait, ce Tom Ford.
D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que Les Chefs du Pentagone a été tourné par Grant Heslow. Je ne connais pas non plus la filmographie. Ouais. Hélène, donc tu nous as passé Le Chevalier de Rinchy et je crois que tu voulais nous parler d'un fanzine...
Oui, pourquoi pas.
Oui, vas-y.
On n'avait rien de mieux à faire. Quel beau titre. Mmh. Un fanzine haché le soir d'un concert du Club des Chats, parce que dans leur petite mallette, ils distribuent beaucoup de choses indépendantes aussi.
Alors, je sais qu'on peut s'abonner au Club.
Les Joyaux de la Couronne, c'est en fait le fanzine qui est aussi un disque, qui est aussi un poster sérigraphié, qui est aussi un joujou, qui sort tous les deux mois et qui est fait par l'équipe à la fois du Club des Chats et de leurs amis, c'est-à-dire le Vilain Chien Record. C'est leur. Le Club des Chats, le Vilain Chien, tout ça.
Tout ça, on peut le trouver sur Internet. Et donc, on peut s'abonner. Si donc, tous les mois, on reçoit un CD. Tous les deux mois, on reçoit un CD, un poster,
un petit fanzine.
Un gadget.
Et des belles choses. Et donc, dans leur petite mallette magique, j'ai trouvé, on n'avait rien de mieux à faire, un fanzine d'une parfaite inconnue, parce que c'est sa première publication, Claire Vibjic, qui raconte, c'est là que ça m'a intéressée, parce que la couverture est assez... comme vous l'avez remarqué, quelqu'un assez semblable aux comics américains traditionnels, avec les héros présentés en première page, le numéro 1, une petite phrase accrocheuse et tout. Et à l'intérieur, plus caractéristique de quelqu'un qui fait une première publication et qui fait une préface pour prévenir que oui, le style va changer, que c'est un peu pour s'essayer à tout ça. Mais pour raconter quoi, donc ? Eh bien, pour raconter un été où Claire est partie en compagnie d'une amie à elle, Julie, je crois, partie faire le pèlerinage de Compostelle.
De Saint-Jacques-de-Compostelle.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, à pied, bien sûr. Ah, attends, un pèlerinage.
Depuis où ?
Alors, elle est partie de Saint-Jean-Pied-de-Port, comme pas mal de gens. C'est-à-dire qu'elle
est quand même. Saint-Jean-Pied-de-Port.
Voilà. Au début, ça commence, elle est en Allemagne avec sa pote et on se dit, on va quand même pas partir d'Allemagne. Non, elle est partie de Saint-Jean-Pied-de-Port.
C'est où ça ? C'est dans le sud ?
C'est dans le sud de la France. Et en fait, le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle va jusqu'au sud de l'Espagne.
D'accord.
Non.
Ah ben non, le nord de l'Espagne.
Saint-Jacques de Compostelle. Nord de l'Espagne, n'importe quoi. Pardon. Non, traverse, je voulais dire, oui, c'est ça, c'est vers l'ouest, en fait, le point le plus à l'ouest. Et c'est assez drôle parce qu'elle ne fait pas du tout ça pour une raison religieuse. Non, elle est complètement athée. Sa copine aussi, d'ailleurs, le sous-titre du fanzine, c'est Salut les cathos, voilà les clodos, deux paumés sur Compostelle. Et donc elle part sans un sou en poche, et c'est ça que j'ai le mieux aimé dans le récit, c'est vraiment la débrouille la plus totale. Quand il faut payer 3 € pour dormir, c'est de toute façon trop, donc on se débrouille comme on peut, on mange des nouilles et des gâteaux, et voilà.
Moi je trouvais que ça ressemblait un petit peu, j'en ai parlé plusieurs fois, à Morgan Muffel, Lizzy Schultz.
Encore, mais qu'est-ce qui t'arrive, t'es amoureux ou quoi?
Ah ouais, mais non, de Morgan
depuis que je l'ai rencontré aux 20 ans de la Fanzino, j'en peux plus. Non, mais je trouve que y a un style de dessin un petit peu pas très bien dessiné comme
semi-réaliste et en même temps assez expressif.
Mais c'est marrant parce qu'elle dessine vachement mieux dans la préface dans le reste.
La préface a été faite à la
après.
Fin. Ouais. Et oui.
Donc c'est bien. On sent que le dessin évolue de toute façon tout au long du film.
Ouais, donc c'est évolu et puis ça c'est plus.
Tu peux rappeler le titre ? Est-ce qu'il y a un site internet où on peut trouver ça ?
Site internet non, mais je pense que peut-être en allant voir les amis du Vilain Chien sur levilainchien.com. Voilà. Et sinon, le fanzine s'appelle On n'avait rien de mieux à faire de Claire Vibjic avec un W.
Pour finir, je vais vous repasser un extrait du disque du Chevalier de Rinchy. Et puis, désolé, ça a été un peu court pour vous cette fois-là.
On
sera là pour ça.
La semaine prochaine. On rappelle quand même le prochain rendez-vous Microclimat, peut-être.
Ouais, Microclimat, ça commence donc la semaine prochaine. Lundi, le premier rendez-vous est au Confort Moderne, lundi 19 à 19h30, un récit des airs sonores par Jean-Philippe Renoux. Et le vrai début du festival, c'est mardi 20 à l'Espace Mendes France. Il y a écrit soirée d'ouverture, alors je me dis que c'est peut-être un indice. Également, pot d'ouverture le même jour, donc à 19h30, mardi 20 à l'Espace Pierre Mendes France.
À la semaine prochaine, on est là pour ça.
Sur Radio Pulsar.
Bonne nuit.
Avez-vous entendu le fruit qui tombe ? Avez-vous entendu le fruit qui tombe ?